Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La première et dernière liberté est un essai de Jiddu Krishnamurti, penseur indien du XXe siècle. Construit à partir de son enseignement et complété par des échanges sous forme de questions et réponses, loin de proposer une doctrine spirituelle, un programme de développement personnel ou une appartenance religieuse, le livre examine les mécanismes psychologiques qui limitent la liberté humaine. Krishnamurti y relie les conflits intérieurs et collectifs à la peur, au désir de sécurité, aux croyances, aux images de soi et aux conditionnements sociaux. Son point de départ est exigeant, une pensée juste suppose une connaissance directe de soi. Cette connaissance ne résulte pas de limitation, de la discipline imposée, ni de l'autorité d'un maître, mais d'une observation attentive des faits psychiques tels qu'ils apparaissent. Le livre aborde ainsi la souffrance, la solitude, la mort, la religion, la violence, la relation et la recherche de vérité. Son but est moins de fournir des réponses que de déplacer radicalement la manière de questionner. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la connaissance de soi comme condition préalable à toute liberté, pour Krishnamurti. La liberté ne consiste pas principalement à choisir entre plusieurs options ni à obtenir une indépendance extérieure. Elle commence par la compréhension des mouvements réels de la conscience, réaction de défense, ambition, souvenir, comparaison, frustration et attachement. Une personne qui ignore ces mécanismes peut se croire libre tout en agissant sous la pression de ses habitudes et de ses peurs. Le livre refuse donc une connaissance de soi purement théorique, fondée sur des catégories psychologiques ou des explications reçues. Il invite à voir, dans la vie ordinaire, comment se forment la colère, la jalousie, le besoin de reconnaissance ou le désir de domination. Cette attention n'est pas une introspection narcissique. Elle vise à établir un rapport non déformé avec ce qui se produit intérieurement. Krishnamurti insiste sur le fait que la fuite vers un idéal de perfection peut empêcher cette perception, car elle remplace le fait présent par une image de ce que on devrait être. Comprendre une réaction au moment où elle se manifeste devient alors plus important que la condamner ou la justifier. La liberté désigne cette lucidité qui rend visibles les déterminismes au lieu de les prolonger inconsciemment. Deuxièmement, le conditionnement social et psychologique à l'origine des divisions. Le livre analyse le conditionnement comme un ensemble d'influences qui façonne la perception avant même que l'individu ne pense choisir librement. Éducation, tradition, nationalité, religion, classe sociale et mémoire personnelle fournissent des cadres d'identification. Krishnamurti ne les traite pas seulement comme des données culturelles neutres lorsque ces identifications deviennent absolues. Elles opposent les individus et alimentent la peur de perdre un statut, une croyance ou une appartenance. Sa critique vise autant les idéologies politiques que les orthodoxies religieuses, car toutes peuvent transformer une idée en refuge psychologique. La sécurité recherchée dans un groupe ou dans une doctrine produit alors une dépendance envers une autorité extérieure. Cette analyse relie directement le domaine intime au domaine collectif. Les conflits du monde ne sont pas séparés de la compétition, de la comparaison et de la peur qui travaillent les relations quotidiennes. Toutefois, Krishnamurti ne propose pas de substituer une identité universelle à des identités particulières. Il demande plutôt de regarder le mécanisme même de l'identification. Ce déplacement est décisif, combattre une croyance par une autre perpétue le même processus. Tandis que voir le besoin de se définir peut ouvrir une relation moins défensive aux autres et au réel. Troisièmement, la peur et la quête de sécurité comme moteur de la dépendance intérieure. La peur occupe une place centrale dans cette réflexion parce qu'elle pousse l'esprit à rechercher des garanties là où aucune garantie durable ne peut être obtenue. Peur de souffrir, de perdre, de mourir, de ne pas réussir ou de ne pas être aimé, ces formes diverses favorisent l'attachement à des croyances, à des personnes, à des possessions ou à des images de soi. Krishnamurti examine la manière dont la pensée nourrit souvent cette peur en projetant dans le futur les blessures accumulées dans le passé. Le problème ne se réduit donc pas à un événement extérieur dangereux. Il concerne aussi le temps psychologique, lorsque la mémoire anticipe et répète intérieurement une menace. L'auteur se distingue ici des approches qui recommandent de contrôler ou de supprimer la peur par la volonté. La lutte contre une émotion peut créer une division entre un observateur qui veut maîtriser et une peur qui doit être vaincue. Son interrogation porte plutôt sur la possibilité de regarder la peur sans fuite immédiate, sans explication consolatrice et sans idéal opposé. Cette attention exige une grande honnêteté, car elle retire les protections habituelles. Elle permet aussi de comprendre pourquoi le besoin de sécurité mentale peut engendrer conformisme, soumission et violence. Quatrièmement, observer sans méthode ni autorité pour laisser apparaître le fait, la démarche de Krishnamurti récuse l'idée qu'une méthode fixe puisse conduire mécaniquement à la liberté. Une méthode promet un résultat futur, demande une répétition et installe souvent une autorité, même lorsque cette autorité est intérieure. Or, selon le livre, un esprit qui suit une recette peut devenir plus discipliné sans devenir plus lucide. Il applique un modèle au lieu de rencontrer directement la réalité mouvante de ses réactions. Cette critique explique son refus du rôle de gourou et de toute dépendance envers un guide spirituel. Les paroles du penseur ne doivent pas être adoptées comme des conclusions définitives, mais vérifiées dans l'expérience de chacun. L'observation proposée N est ni une passivité ni un exercice de concentration forcée. Elle consiste à percevoir un fait sans le recouvrir aussitôt de jugement, de comparaison ou de souvenir. Dans cette perspective, nommer trop vite une émotion peut déjà la ramener à une expérience connue et empêcher de voir sa singularité présente. Le livre donne ainsi à la méditation un sens non technique, elle est une qualité de vigilance dans les relations, les gestes et les pensées ordinaires. Sa difficulté tient précisément à son absence de protocole rassurant et à la responsabilité entière qu'elle confie au lecteur. En dernier lieu, la relation. La souffrance et la mort examinées au présent, les questions de relation, de souffrance et de mort permettent au livre de tester concrètement son exigence de lucidité. Dans la relation, Krishnamurti montre que chacun rencontre souvent non pas une personne présente, mais une image élaborée par les souvenirs, les attentes et les blessures. Cette image peut entretenir l'attachement comme le ressentiment, car elle transforme autrui en support de sécurité ou de gratification. Une relation plus libre suppose donc de reconnaître ce travail de projection. La souffrance est également étudiée sans consolation doctrinale. La fuite vers les divertissements, les explications religieuses ou les compensations affectives peut soulager provisoirement, mais elle ne clarifie pas la racine du problème. Quant à la mort, elle révèle la difficulté à abandonner ce que le moi a accumulé expérience, possession, relation et continuité imaginaire. Krishnamurti rapproche cette question de la capacité à finir psychologiquement avec le passé au lieu de le prolonger indéfiniment. Il ne s'agit pas de nier les liens humains ni les réalités matérielles, mais de distinguer le fait d'aimer du besoin de posséder. Cette analyse donne au livre une portée éthique, la liberté intérieure se mesure dans la qualité des rapports humains et non dans une expérience isolée ou spectaculaire. En conclusion, la première et dernière liberté conviendra surtout au lecteur attiré par la philosophie existentielle, la psychologie de la conscience et une spiritualité non confessionnelle. Il peut être particulièrement utile à ceux qui souhaitent interroger les mécanismes de peur, de dépendance, de comparaison et d'identification, sans recevoir un ensemble de techniques à appliquer. Sa lecture demande cependant de la disponibilité Krishnamurti, répète certains thèmes et avance souvent par questions. Paradoxes et distinctions fines, plutôt que par démonstration systématique. Cette forme peut dérouter les personnes qui cherchent une méthode de méditation, un cadre thérapeutique ou des conseils immédiatement opérationnels. Son bénéfice intellectuel réside dans le déplacement du regard au lieu de demander quelle croyance adopter ou quel objectif poursuivre. Le lecteur est invité à examiner comment son esprit construit lui-même ses certitudes et ses conflits. Sur le plan pratique, cette perspective peut affiner l'attention aux réactions automatiques dans les relations et aux formes discrètes de soumission intérieure. Par rapport à de nombreux ouvrages de spiritualité, le livre se distingue par son refus explicite de l'autorité, de la promesse de progrès et de la consolation doctrinale. Par rapport au manuel de psychologie, il se distingue aussi par son absence de vocabulaire clinique et par son ambition plus radicale ne pas simplement mieux adapter le moi à ses conditions, mais questionner la structure même qui le maintient. Cette singularité explique sa force durable autant que son exigence. Si vous souhaitez soutenir Jiddu Krishnamurti, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.